comme disait Jean-Philippe, pour beaucoup de Français, Noël, c'est un style décoratif, et j'aime bien les décorations de Noël. Noël, ce sont des traditions gastronomiques que j'aime aussi. Mais si on revient au premier Noël et son impact dans le monde, il faut dire que le premier Noël était un Noël révolutionnaire, qui a révolutionné le monde et bouleversé des vies. Je lis en ce moment un livre écrit par un Indien d'arrière-plan hindou, et le titre du livre s'intitule « Le livre qui a changé votre monde ». Il s'adresse un peu aux Occidentaux. Il dit « Vous, les Occidentaux, vous oubliez à quel point le message de la Bible a changé votre monde, a changé le monde entier, au niveau éthique, au niveau politique, au niveau médical, social, musique. Noël et puis toutes les implications du christianisme a vraiment changé, impacté notre monde, et surtout en Occident, nous sommes des héritiers de ce Noël révolutionnaire. » Luc Ferry dit la même chose en parlant de l'incarnation. C'est Noël, le fait que Dieu est devenu une personne en Jésus. Il parle de l'incarnation un peu au niveau philosophique, mais il dit « Il est tout à fait clair que sans cette valorisation typiquement chrétienne de la personne humaine, puisque Dieu est devenu une personne humaine, sans cette valorisation typiquement chrétienne de la personne humaine, de l'individu comme tel, jamais la philosophie des droits de l'homme, à laquelle nous sommes si attachés aujourd'hui, n'aurait vu le jour. » Donc, même lui reconnaît que c'est grâce au message chrétien, au message de Noël, qu'est né les droits de l'homme, par exemple. Donc, pendant tout le mois de décembre, on va essayer de sortir Noël de la case religion, de la case décoration saisonnière, et voir des implications concrètes, réelles, dans la vie de tous les jours. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous les implications politiques de Noël. Suis-je fou de parler politique aux Français? Peut-être, mais je préfère que Noël vous dérange, que Noël vous endormisse et vous laisse indifférent. Et vous allez voir que dans l'histoire de Noël, des politiciens ont joué un rôle et des personnes ont été impactées par des décisions politiques et l'arrivée de Jésus a vraiment changé tout, y compris la politique. Donc lisons ensemble Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant après cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. » Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. N'ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. La plupart des églises s'interdisent, à juste titre, de parler politique. Mais en général, ce qu'elles veulent dire par ça, c'est qu'elles se gardent d'appuyer un parti politique en tant qu'église, ou de prendre position pour tel ou tel candidat en tant qu'église, avec les présidentielles 2022 qui ont plus ou moins démarré fort cette semaine. C'était pas prévu que ça tombe en même temps, mais moi je vais pas vous donner des consignes de vote ce matin en ce qui concerne les présidentielles. Mais une interdiction absolue de parler politique nous empêcherait de parler de l'histoire de Noël, où il y a, on trouve des politiciens et des décisions politiques et des vies impactées par la politique. Et la Bible enseigne à plusieurs reprises le rapport entre Dieu et l'État, entre la foi et la politique, et donc nous voulons prendre à cœur ces enseignements. Et dans ce cas, on se permet de parler politique. Pour Marie et Joseph, le rapport entre Dieu et l'État, entre Dieu et le roi, a joué un rôle important dans leur parcours, pour les mages aussi. Donc je crois ce matin que l'histoire de Noël peut nous aider à rendre à César ce qui était à César et rendre à Dieu ce qui était à Dieu. Et mon but ce matin, c'est que déjà vous soyez très reconnaissants pour l'impact qu'a eu Noël et le message de Christ sur la politique, sur une conception du droit et des lois et beaucoup de justice que nous avons par rapport à des lieux où la corruption règne encore. Et ça, c'est, on peut célébrer l'impact de Noël sur notre manière de fonctionner encore aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais que vous repartiez avec ce courage, un courage calme et confiant qui vient lorsque on sait que Jésus est le roi suprême de nos vies, comme il a été pour Marie et Joseph et pour les mages, face à des fois des politiques ou des politiciens qui peuvent être contre Dieu. Donc je vais vous montrer que Noël a quand même eu un impact politique. Le premier Noël a provoqué, a produit les troubles d'un roi. Une désobéissance chez les mages, ensuite une soumission courageuse, confiante mais limitée d'un couple, un jeune couple, et puis le premier Noël a aussi provoqué la chute future de l'Empire romain. Je crois que tous ces points, comme nous allons voir, ont une dimension politique, et ça va nous aider, nous, à vivre notre foi en tant que chrétiens. Tout d'abord, le premier Noël a provoqué des troubles d'un roi. Vous avez vu ça dans les premiers versets de chapitre 2. Les mages arrivent à la capitale, ils vont au palais, ils vont voir le roi Hérode, et verset 2, ils posent cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors là, c'est chaud. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, s'il y a des médias, les caméras qui tournent, et que c'est des médias pro-Hérode, ils vont censurer ça. D'autres vont peut-être le diffuser, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est une phrase à censurer si on est Hérode. Hérode sait bien qu'il n'y a pas eu de naissance dans sa famille, dans les juste là. Et donc verset 3 dit que Hérode est très troublé. Ce trouble est signe que Hérode a compris Noël mieux que la plupart des gens. Il a compris Noël, il n'a pas bien réagi, mais au moins il a compris. Selon un commentaire, l'orientation de l'histoire est évidente. Jésus était le véritable roi des Juifs. À une époque où il y en avait déjà un, Hérode le Grand. La naissance d'un bébé qui héritera du trône de son ancêtre David annonce le début d'une révolution. Dans les Écritures d'Israël, David a régné sur les 12 tribus, mais les psaumes et les prophètes insistaient sur le fait que son ultime successeur régnerait sur le monde entier. Quiconque revendique le royaume de David lance un défi aux dirigeants du monde, que ce soit au 1er siècle ou au 21e. Donc vous comprenez que Hérode s'est senti menacé, troublé. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais attends, c'est moi le roi des Juifs et moi j'ai pas de fils là qui vient de naître. Donc là c'est quoi? C'est une révolution? C'est un concurrent? Comment il va vivre ça? Il s'est senti menacé alors que s'il avait resté quelque temps, hein, s'il avait lu jusqu'à Jean 18, bon, il n'avait pas Jean 18, mais comme Jean-Philippe nous a lu ce matin, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et Jésus n'a pas cherché à usurper le trône politique d'Hérode. Mais, comme l'affirment les cantiques de Noël, comme cette question des mages, Jésus est né le roi. On a chanté le roi des rois. On a chanté « Il règne sur le monde entier ». Vous connaissez que le fameux cantique « Minuit chrétien » a une strophe qui s'adresse aux politiciens, n'est-ce pas ? Le roi des rois né dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur, c'est de là qu'un Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur, puissant du jour. C'est de là, c'est d'une crèche que Jésus te parle, te prêche, en disant « Courbez vos fronts ». C'est magnifique, cantique de Noël, c'est le préféré de tous, petit et grand. Mais effectivement, ça nous interpelle, ça peut nous troubler. Cette vérité a troublé des politiciens par le passé. Et quelque part, cette vérité vient troubler chaque cœur humain. Chaque cœur humain qui, s'il a bien compris la venue de Jésus, reconnaît que Jésus est prétendant du trône de mon cœur aussi. Et certains y voient un concurrent. Ils peuvent être troublés. Jésus veut être le roi de tous. Donc, en verset 8, Hérode, il choisit la voie de la manipulation, du mensonge, en disant aux mages, bon, allez vous renseigner et puis revenez, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais c'est pas vraiment ce que veut faire Hérode. Donc, Hérode serait ni le premier ni le dernier politicien à agir des fois avec mensonge et manipulation, parce qu'il est troublé. Il veut pas reconnaître Jésus comme roi. Pire encore, verset 16, il ordonne le massacre des bébés parce qu'il veut pas reconnaître, parce qu'il a peur de ce roi qui semble être un concurrent pour lui. Il ordonne le massacre des bébés qu'on estime à l'époque, c'est Bethléem, c'est un petit village, combien de bébés entre 0 et 2 ans? On estime comme une vingtaine de bébés. Donc c'est terrible. Mais encore, c'est loin de ce que la politique moderne de l'avortement, qui rejette Dieu comme roi de la vie, de la mort, de la sexualité, est capable de produire aussi. Donc, les troubles d'un roi, voilà ce que le premier Noël a provoqué. Donc, ça a provoqué ensuite une désobéissance des mages. Et je crois qu'on peut célébrer les mages. Les mages ont rendu à Hérode ce qui était à Hérode, et ils ont rendu à Jésus ce qui était à Jésus, et ils n'ont pas rendu à Hérode ce qui appartient à Jésus seul. Voilà ce que les mages ont fait. Et donc, les mages sont venus, ils sont passés voir le roi Hérode. Une visite d'État, une visite courtoise. Ils sont allés, ils sont passés par Jérusalem, ils se sont présentés, ils sont pas venus en espion. Ils ont toqué à la porte des palais, ils ont demandé des instructions. Donc, ils ont montré un respect pour les autorités et le roi en place. Mais ils l'ont pas adoré. Ils gardent leur adoration pour le vrai roi des Juifs, et c'est devant le roi des Juifs que vous savez l'histoire de Noël qu'on va célébrer par la suite, notamment dans quelques semaines, quand ils ont offert les présents, et ils se sont prosternés, ils ont adoré l'enfant. Et puis regardez la suite, chapitre 2, verset 12. Et donc, ils adorent l'enfant, et Hérode leur avait demandé de revenir me voir, me donner des instructions, dites-moi ce que vous avez trouvé. Mais verset 13, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le Nouveau Testament qui nous encourage, qui enseigne souvent la soumission aux autorités, le respect et la soumission aux autorités, commence avec une désobéissance civique. Et les mages n'ont pas rendu à Hérode l'information qu'il réclamait. Ils sont passés par un autre chemin. Ils se sont dit, la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, de la loi du pays. Et je pense que Darmanin serait d'accord avec la démarche de ne pas favoriser le massacre d'un enfant. Je pense qu'ils étaient divinement avertis, ils avaient la volonté de Dieu qui, là, était au-dessus de la volonté du roi. Certes, ils n'ont pas financé une armée pour renverser Hérode. Ils n'ont pas scandé les slogans. Ils n'ont pas semé le trouble. Mais discrètement, respectueusement, sans aucune violence, ils n'ont pas fait ce que le roi leur a demandé de faire. Et ils sont rentrés chez eux. Quand on pense à ce roi Hérode, il y a quelque chose d'intéressant qui justifie en quelque sorte la désobéissance des mages, c'est que Hérode ne sache pas où le roi Messie devait naître, et il va devoir consulter les scribes, tout ça. C'est quand même signe que ce roi, il connaît mal les lois de son propre pays. Il n'est pas en phase avec ce que la loi de Moïse, la loi juive, la constitution du pays lui demande et lui fait savoir. Dans l'Ancien Testament, les rois juifs devaient s'écrire une copie de la loi. Donc c'est déjà un bon exercice, tu te recopies toi-même une copie de la Bible, ça t'aide à la connaître. Donc les rois devaient se faire une copie de la loi de Moïse, et comme ça, ils la connaissent. Et c'est aussi le rappel que ces rois ne sont pas au-dessus des lois du pays. Les rois juifs, ils sont aussi tenus par les 10 commandements. Ils sont aussi tenus par les psaumes et les prophètes de préserver cette attente messianique. Et que Hérode semble pas savoir ces choses, ça montre qu'il a oublié les lois de son pays. Philippe Robach, qui est professeur de philosophie à Strasbourg, il donne cette condition importante à la désobéissance civique légitime. Il dit souvent, la désobéissance, c'est de rappeler aux dirigeants, rappeler aux rois, leur propre loi, leur propre constitution, dans laquelle, des fois, ils se comportent en porte-à-faux. Et donc, c'est pas juste de vouloir tout casser ou rejeter l'autorité, c'est pas l'esprit qui anime, mais c'est souvent de rappeler que les rois même sont soumis aux lois et qu'on revient à la loi, à ce qui est juste, ce qui est écrit souvent dans les lois de nos propres pays, dans les constitutions. L'idée que les autorités ne sont pas au-dessus des lois est un héritage chrétien qui a souvent préservé une politique juste en Occident, et ça on peut célébrer encore aujourd'hui. Donc les mages ont montré un grand respect pour le roi en place, mais ils n'ont pas tout obéi. Ensuite, j'aimerais voir, encore dans le cadre un peu politique de Noël, Noël a produit une soumission courageuse, confiante, mais limitée d'un jeune couple. Bien sûr, le jeune couple en question, c'est Marie et Joseph. Pourquoi Marie et Joseph étaient à Bethléem? Eh ben, la raison spirituelle, bien sûr, c'est parce que Jésus devait naître à Bethléem selon les prophéties. C'était la ville de David, Jésus est descendant de David, et donc, d'après la prophétie de Michée, ici, en verset 6, Jésus doit naître à Bethléem. Mais Marie et Joseph ne comprenaient pas tout ce qui se passait, et de leur point de vue, ils pouvaient connaître les prophéties, mais concrètement, ils sont pas allés à Bethléem parce qu'ils lisaient Michée. Ils sont allés à Bethléem parce que, à cause d'une politique de César. Ça, on apprend en Luc chapitre 2, César a ordonné un recensement de toute la terre et chacun devait se rendre dans sa ville. Alors Marie et Joseph sont allés aussi à Bethléem à cause de cet édit de César Auguste. Et cet édit, c'est un recensement, et beaucoup disent que les commentaires disent que c'est probablement lié aux impôts. Moi, j'ai appris Luc 2 par cœur chaque Noël en famille. C'était dans une ancienne version anglaise, mais l'édit était un édit d'imposition, un édit de taxation. Donc, Marie et Joseph, ils ont dû supporter une administration romaine quand même difficile, pénible. Les routes à péage, hein, on connaissait Matthieu, celui qui écrit cet évangile, c'est un ancien péager qui agit pour le compte de Rome. Et ça, c'était lourd pour le peuple juif, il devait circuler. Donc là, Marie et Joseph, ils sont tranquilles chez eux à Nazareth, et à cause d'un édit de César, à cause d'une politique du gouvernement en place, ils doivent se déplacer, prendre la route, c'est une route à péage. Certainement, ce jour-là, c'était classé noir, parce que voilà, on voit que à Bethléem, les hôtels et les aires de repos sont bondés. Et voilà, c'est quand même difficile de supporter tout ça. Imaginez que cette année, tous les Français devaient se confiner, chacun dans sa ville natale, pendant les fêtes de fin d'année, pour payer une nouvelle taxe écologique. À pied. Vous ne prenez pas la voiture parce que c'est une taxe écologique. Heureusement, vous voyez, ça risque pas, heureusement, parce que déjà c'est une année électorale et on a fait du progrès notamment, et on sait qu'il faut pas donner un pouvoir absolu à un César, et maintenant on a quand même beaucoup progressé, et ça c'est aussi l'impact chrétien, qu'on valorise la démocratie et non un pouvoir absolu chez un homme. Mais voilà, Marie et Joseph finalement qui montrent une attitude chrétienne, qui est soumise aux autorités. La soumission aux autorités à l'époque devant un César était des fois plus lourd que tout ce que nous imaginons en soumission aux autorités. Et Marie et Joseph se remettent à Dieu dans la confiance, pas de contestation, pas de colère, mais la confiance dans un Dieu souverain qui conduit tout, qui pourvoit tous les besoins. Mais encore une fois, cette soumission n'est pas absolue. Ils supportent le déplacement en Bethléem, mais ils vont aussi fuir en Égypte. Eh oui. Et là, ils suivent la volonté clairement révélée de Dieu qui leur dit « Fuyez en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. » Et le verset 13 et 14 dit « 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retirait en Égypte. » Donc là, c'est une fuite clandestine, ça se passe la nuit. Ils s'exilent quelques années pour sauver l'enfant Jésus. Et ensuite, encore pour des raisons politiques, ils vont vivre plutôt en Galilée qu'en Judée pour protéger leur fils. Donc là, c'est quand même, ils sont impactés par les gouvernements. Et Dieu leur dit, la fuite clandestine, l'exil. Donc vous voyez, cette soumission n'est pas absolue. Et ce qu'on peut célébrer chez Marie et Joseph, c'est que ça soit la soumission aux autorités de se rendre en Bethléem, ou que ça soit l'exil clandestin, ils l'ont fait avec foi, ils l'ont fait pour la gloire de Dieu, ils l'ont fait en obéissance à ses principes. Et ils n'ont pas agi par la peur, ni dans un sens ni dans l'autre, mais courageusement, ils se sont remis à Dieu. Et si ça voulait dire aller à Bethléem, parce que César nous impose ça, ben on va à Bethléem. Si ça veut dire fuir en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant, et qu'on a ce principe de Dieu qu'il faut sauver la vie de nos enfants et prendre soin de nos enfants, eh bien on va s'exiler en Égypte le temps que ça se calme. Et voilà ce qu'ils ont fait. Et tout ça, toute cette attitude soumise, confiante, nous la trouvons, cette attitude, vraiment par excellence, dans l'incarnation, dans Jésus lui-même. En Jésus lui-même qui a quitté son trône et qui est devenu un homme, nous voyons là la beauté de la soumission, la beauté de l'humilité, la beauté de la paix. Tout ce qu'a fait Jésus, il n'était pas revendicateur, il n'était pas colérique, il a choisi l'humilité, il était doux et humble de cœur. Et l'histoire de Noël inculque ces valeurs, et ces valeurs en font les meilleurs citoyens. Vous savez, il y a quatre textes clés du Nouveau Testament qui enseignent le rapport entre le citoyen et l'État, même un État non chrétien. Quatre textes clés qui ce rapport de soumission envers les autorités. Il y a Jean-Baptiste, il y a Jésus, il y a Pierre, il y a Paul. Ça, c'est les quatre textes clés. Jean-Baptiste, je rappelle, il encourage, c'est au moment des baptêmes, mais Jean-Baptiste encourage les soldats et les collecteurs d'impôts, les publicains repentants. Il les encourage non pas à changer de métier, ils étaient fonctionnaires, ils travaillaient pour l'État romain, un État imposer une vie pénible au peuple. Mais Jean-Baptiste encourageait ses publicains et ses collecteurs d'impôts et ses soldats romains repentants de ne pas forcément changer de métier, mais juste de vivre juste, pas de corruption, pas d'exploitation, juste. Donc ça, c'est étonnant que Jean-Baptiste n'appelle pas à ses soldats et ses publicains de changer de métier, ce qui montre déjà un rapport envers l'État, un État non chrétien. Jésus, lui, il a dit cette fameuse phrase, c'est un grand miracle de la Bible, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette phrase a une beauté, une richesse en formidance, cette phrase qui a aidé les chrétiens tant de fois à rendre à César ce qui est à César, donc tout le respect, l'obéissance, l'impôt, et puis rendre à Dieu ce qui est à Dieu, l'adoration et l'obéissance ultime. Ça, c'est donc Jésus, Jean-Baptiste, Jésus. Paul, en Romains chapitre 13, c'est un grand texte, vous connaissez les premiers versets peut-être, mais sinon vous pouvez les lire. Romains 13, quelques versets, rappelle la soumission aux autorités. Et puis Pierre, l'apôtre Pierre, dit la même chose, et donc c'est ça, je lis cette référence, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 14. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur. Ça ressemble beaucoup à ce que Paul dit en Romains 13. Donc Jean-Baptiste le dit, Jésus le dit, Pierre le dit et Paul le dit, soyez soumis aux autorités, respectez tout ça. Maintenant, Jean-Baptiste, Jésus, Pierre et Paul, comment ont-ils tous terminé leur vie? Tous exécutés parce qu'ils n'ont pas obéi aux autorités qui leur demandaient de se taire, par exemple, par rapport à l'évangile ou rejeter la vérité de Dieu. Jean-Baptiste a été exécuté parce qu'il a dit au roi, non, il t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Prison, décapitation. Jésus a dit, vous l'avez entendu, je suis roi. Et Pilate, il voulait pas le condamner, mais il pouvait pas le lâcher parce que dire roi devant ça, César. Donc, Pilate a cédé. Et puis, Pierre et Paul aussi ont été mis à mort par les autorités qui voulaient qu'ils se taisent ou qu'ils évangélisent pas, qu'ils reconnaissent que Jésus soit le Seigneur. Et non, ils disaient Jésus est Seigneur. Donc, c'est intéressant que les quatre grands textes qui appellent à la soumission aux autorités, avec respect, avec patience, avec humilité, avec douceur, ont été écrits par des gens qui ont montré que cette soumission n'est pas absolue. Bien sûr, Jean-Baptiste, Jésus, Pierre et Paul, chacun était rempli d'amour, de pardon, de prière envers les autorités jusqu'au bout pour montrer la force d'un témoignage chrétien. Donc, le premier Noël a produit des troubles d'un roi, une désobéissance des mages, une soumission courageuse de Marie et Marthe, c'était le message de mon frère, de Marie et Joseph, et la chute future de l'Empire romain. La mission de Jésus n'était pas une mission politique, vous l'avez compris. Jésus est venu délivrer et libérer son peuple de leurs ennemis, mais la grande surprise pour les premiers disciples, c'est que ces ennemis ne sont pas politiques. Ils pensaient que c'était les ennemis politiques, mais Jésus les corrigeait maintes et maintes fois. Non, je ne suis pas venu vous délivrer des ennemis politiques, je suis venu vous délivrer des ennemis spirituels, des ennemis du péché, des ennemis de votre... qui se trouve dans ton propre cœur. Alors Jésus est venu sauver le monde, oui, mais pas avec une armée, pas avec des banderoles, pas avec un puissant lobby, mais il est venu sauver le monde avec le projet de donner sa vie sur la croix que nous avons encore chanté et célébré ce matin. Juste avant de mourir, comme ça a été lu, il a interdit la prise de l'épée. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mes serviteurs ne vont pas se battre pour me délivrer parce que mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai pas un projet politique anti-romain ou anti-Hérode. Je suis pas venu pour ça. Parce que on sait bien la meilleure politique ne peut pas changer les cœurs. Votre candidat préféré qui soit élu, ça va pas changer le cœur des hommes. Seule la rédemption seule la rédemption de Christ peut faire ça. C'est pour ça que Jésus est venu, non pas en tant que politicien, mais en tant que rédempteur, en tant que sauveur. Et c'est ça qu'il nous faut. Mais en venant de cette manière, comme il est venu, avec amour, avec rédemption, Jésus a montré une autre sorte de pouvoir. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir du sacrifice, le pouvoir de l'humilité. Et dans le temps, ces valeurs ont triomphé des Hérodes, des Pilates, des Césars, des tyrans. Vous voyez, Noël a mis en route le mécanisme qui a fini par renverser l'Empire romain. Ça a pris du temps, mais l'Empire romain, à partir du moment que Jésus est venu et qu'il a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile, et qu'il a accompli le salut, et que ce salut a été prêché au monde entier jusqu'à Rome, eh bien, l'Empire romain a commencé à changer. Jusqu'au jour où l'empereur lui-même a décidé... En tout cas, je préfère les valeurs chrétiennes que les valeurs non chrétiennes. Donc, Constantin qui dit, je suis chrétien. Est-ce que c'est une vraie conversion ou comment ça s'est passé? On n'était pas là. Mais à partir de ce moment-là, ils ont vu qu'il y avait tellement de chrétiens et que les valeurs chrétiennes étaient mieux que les valeurs antichrétiennes, qu'on va suivre plutôt les idées chrétiennes. Bon, et malheureusement, on est parti un peu dans l'autre domaine où on a voulu imposer le christianisme sur l'État, et ça n'a pas marché non plus. Mais Jésus est venu montrer une autre voie, la voie de l'Évangile, la voie de la croix, la voie des cœurs transformés de l'intérieur, non pas par une politique, mais par sa personne, sa présence. Et vous savez, quand des histoires comme Luc chapitre 2, que vous allez peut-être lire cette Noël, ou Matthieu 2, comme nous avons lu ce matin, quand les histoires comme Luc 2 et Matthieu 2 deviennent le socle d'une civilisation, comme ça a été le cas en Occident pendant des siècles, eh bien, oui, ça impacte, ça marque. Si vous lisez sur plusieurs générations Matthieu chapitre 2 ou Luc chapitre 2 aux enfants et qu'ils lisent à leurs enfants et que ces enfants prennent leur place dans la société, ça va changer. On voit dans ces histoires les valeurs comme la dignité de la vie humaine, qu'on ne massacre pas, non. On voit la protection des faibles. On voit la liberté de conscience. On voit les autorités au service du peuple. Ce sont des idées chrétiennes qui sont nées avec Jésus. Et ces idées resteront toujours plus nobles, plus fortes que la tyrannie. En Occident, nous pouvons être vraiment reconnaissants pour l'impact. Je citais cet auteur indien. Il raconte histoire après histoire dans les villages où la méthode de fonctionner, quand c'est le commissariat de police, où c'est là où on trouve le plus de corruption. Quand les enfants on les laisse mourir de famine parce que c'est le quatrième enfant de la famille, on n'a pas assez de moyens pour le prendre. Et de toute façon, c'est une fille, on veut pas de fille. Et en Occident, on ne fera pas ça. Et c'est parce que Jésus est venu, il a donné la dignité à la vie humaine, il a montré la voie de l'amour, il a montré que les autorités sont soumises à une autorité plus grande, une morale plus grande, et ça a transformé. Donc voilà les cadeaux du premier Noël. Et j'espère vous avoir montré ce matin que c'est pas abstrait, c'est pas théorique, c'est pas juste de la décoration. C'est des choses qui ont vraiment changé dans notre monde et qui peuvent encore changer nos vies et nos cœurs pour nous rendre meilleurs, mais aussi pour nous donner une espérance éternelle au-delà d'un politique qui ne change pas les cœurs. Je prie que vous puissiez chacun de vous faire Jésus le roi de votre cœur, de votre vie, et qu'en le faisant, vous devenez des citoyens honorables qui respectent les autorités et qui prient pour que ce salut avance. Notre mission en tant qu'Église, c'est pas de faire la politique, c'est de pouvoir annoncer l'Évangile et voir encore des vies transformées pour glorifier Jésus.